France Culture. France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous et mes vœux les plus chaleureux en ce premier samedi de l'année. Le monde accélère la cadence et l'Europe ralentit le rythme, saisie par le doute et le vertige de son propre déclin. L'ordre ancien, celui d'un Occident pétri de nos cultures et construit sur des valeurs communes, est mort, fragilisé par nos atermoiements, pulvérisé par un président américain qui préfère ses rivaux à ses alliés et transforme à son profit un système démocratique sur le point de fêter son 250e anniversaire. En ce début d'un nouveau quart de siècle, on continue de se battre sur notre continent. Quelques semaines de plus et le conflit ukrainien aura duré davantage que la guerre de 14. Une fois encore, le réveil aura été brutal, tant nous nous sommes assoupis sous la protection militaire américaine, enrichis sous le double effet de l'unification de nos économies et de la mondialisation que l'on croyait heureuse. Nous voilà sonnés, sommés de réagir, de répondre à des sociétés inquiètes, promptes à chercher aux extrêmes les solutions que nos démocraties fatiguées semblent incapables de fournir par consensus. L'Europe est traversée, travaillée par différentes formes de populisme et cette année 2026 fait office de transition puisqu'en 2027, quatre pays clés, la France, l'Italie, la Pologne et l'Espagne, devront par le vote décider de leur avenir. Ralentissement économique et démographique, décrochage technologique, crispations identitaires face à une immigration inégalement maîtrisée, autant de symptômes de déclin et pourtant l'Europe conserve le plus vaste et le plus riche marché du monde, un modèle social, une capacité d'attraction qui reste inégalée. Au-delà du pessimisme qui reste hélas une spécificité française, quels sont les ressorts et les moyens dont nos pays disposent pour aller de l'avant? Quelles en sont les limites? Existerait-il un modèle scandinave, un modèle Meloni à l'italienne, un modèle hongrois comme le prétend Viktor Orban? Près de 4 ans de guerre épuisent les Ukrainiens, à l'endurance admirable, et éprouvent l'unité des Européens. Vont-ils tenir? Prise en étau entre Vladimir Poutine et Donald Trump, essoufflée alors que la Chine ne cesse d'innover, l'Europe se doit de rebondir en 2026. Les partis populistes ont-ils les bonnes recettes? Allons-nous en revenir au chacun pour soi ou l'Union peut-elle retrouver une nouvelle dynamique? Eh bien, pour répondre à ces questions vitales et très bien commencer l'année, j'ai le privilège ce matin d'accueillir Philippe Aguillon, notre dernier prix Nobel d'économie, et Marc Lazard, politologue, qui vient de publier un ouvrage très approfondi sur l'histoire du populisme en France et dont on sait la connaissance intime de l'Italie. Marc, La typologie des populismes européens aujourd'hui, en fait, c'est au Parlement européen à Strasbourg qu'on le voit de la façon la plus nette.
Absolument. D'abord, bonjour et permettez-moi, Christine Ockrent, aussi de saluer les auditeurs et les auditrices et de leur souhaiter une très bonne année, une année importante, effectivement, en 2026 et dans la perspective de 2027, comme vous l'avez dit. Oui, c'est ce qu'on peut appeler les nationaux populistes de droite, sont présents actuellement au Parlement européen à l'issue des dernières élections européennes. Ils sont répartis en 3 groupes. C'est un élément important tout de suite à souligner, c'est qu'à chaque élection européenne, ils prévoient de s'unifier et ils en sont incapables. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont une capacité d'influence tout à fait importante dorénavant au Parlement européen. Donc ils sont répartis en 3 groupes. Le groupe des patriotes européens auquel appartient le Rassemblement national, par exemple Vox en Espagne, Chega ou au Portugal, la Ligue de Matteo Salvini, et puis le parti de Viktor Orban. Et on pourrait rajouter aussi le parti du peuple danois de Geert Wilders, le parti de la liberté autrichienne. Chien, c'est un groupe important qui a des points communs, aussi parfois des différences, mais qui marque l'activité du Parlement européen. Le deuxième groupe, c'est le groupe des conservateurs et réformistes européens, auquel appartient, c'est le parti le plus important à l'intérieur de ce groupe, Frères d'Italie, donc le parti de Giorgia Meloni, au pouvoir actuellement en Italie en coalition, ou par exemple le parti Droit et Justice en Pologne, vous avez rappelé qu'en 2027 on votera dans ces deux pays, ou encore les démocrates de Suède, et signalons d'ailleurs qu'on aura des élections aussi importantes en Suède dès cette année, en 2026. Et puis le dernier groupe, c'est le groupe de l'Europe des Nations Souveraines, dont fait partie Alternative pour l'Allemagne, l'AFD Allemagne, en pleine progression électorale dans ce pays, mais aussi le petit parti d'Éric Zemmour, Reconquête.
Et en fait, Marc, ces partis affirment qu'ils répondent à ce sentiment d'abandon qui gonfle dans nos sociétés, un sentiment auquel les partis traditionnels, quel que soit le mode de scrutin, semblent incapables de répondre.
C'est vrai, je pense que... Alors d'abord, peut-être il faut clarifier un peu cette notion de populisme, parce que très souvent, on dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est un mot valise, c'est un mot fourre-tout, et à juste raison. Donc il faut être très prudent, très nuancé, mais aussi très très sérieux. Je ne fais pas partie de ces chercheurs qui, justement, refusent d'employer cette notion de populisme parce qu'ils considèrent que le mot est galvaudé, trop instrumentalisé politiquement pour disqualifier l'adversaire ou pour s'en réclamer. Un certain nombre d'acteurs politiques disent, je suis populiste, est-ce que moi je suis près du peuple alors que vous, vous ne l'êtes pas? Donc très rapidement, trois éléments de définition. Le populisme repose sur une idée, une forme d'idéologie très labile, très, très souple, très flexible, qui consiste à opposer un peuple supposé uni, homogène, contre une minorité d'élite. Deuxième acception de la définition de populisme, eh bien, c'est celle qui considère que c'est avant tout une stratégie avec un certain style fondée sur la démocratie, la démagogie, l'outrance pour essayer de conquérir le pouvoir ou le gérer. Et puis troisième élément, c'est l'expression d'une forme de révolte, d'une culture du bas contre la culture des classes dominantes. Donc voilà, si on a ces définitions, après c'est compliqué, il y a des populistes de droite et de gauche, ceux qui sont majoritaires, c'est les nationaux populistes de droite dans l'Union européenne, et ils prospèrent sur trois éléments, et ça vraiment on le retrouve avec bien sûr des nuances pays par pays. D'une part, une situation de défiance politique à l'égard de chacun des États membres de l'Union européenne, mais aussi à l'égard de l'Union européenne, même si, et on y reviendra sans doute, actuellement il y a quelque chose qui change dans l'opinion publique européenne par rapport à l'Europe, mais en gros, il y a une défiance par rapport à la forme d'organisation de l'Union européenne. Deuxième causalité, c'est une situation sociale compliquée, parfois le chômage peut être réduit dans certains pays, c'est le cas par exemple dans la dynamique actuelle en Italie, mais en même temps il y a une situation de grande précarité, de grandes inégalités. Et puis le troisième élément qui fournit la matière, le combustible de ces populismes, c'est l'interrogation culturelle et identitaire. Qu'est-ce qu'on est exactement? Est-ce qu'on est allemand? Est-ce qu'on est européen? Est-ce qu'on est toscan? Ou on est italien? Ou on est européen? Etc. etc. Et ça, c'est véritablement du combustible de ces formations populistes qui sont à la fois antipolitiques. Ça, c'est un élément important, c'est-à-dire qu'ils critiquent la politique telle qu'elle est organisée traditionnellement, et à mon sens, mais je sais que c'est discuté ce que je vais dire, en même temps profondément politique, dans le sens qu'ils affirment qu'il y a de nouveau une volonté politique qui peut s'exercer, alors que la critique contre la politique actuelle, c'est l'impuissance de la politique.
Philippe Aguillon, l'impuissance de la politique dans nos sociétés, pour nos opinions publiques, c'est évidemment la situation économique. Et en fait, on constate qu'aucun de ces partis populistes ne souhaite aujourd'hui sortir de l'Union européenne, d'autant que l'opinion dans notre continent devient paradoxalement, se rend compte que cette union est utile. Quelles sont les solutions économiques, selon vous, que les populistes européens préconisent?
Oui, alors je sais. Ils préconisent un certain protectionnisme. C'est un point commun. Ils préconisent évidemment Alors, selon que ce soit populisme de gauche et populisme de droite, si c'est populisme de gauche, eh ben, attaquons-nous aux riches. Voilà, l'argent est là à prendre. Et donc, voilà, donc attaquons-nous aux riches. Et puis, le populisme de droite, c'est attaquons-nous aux étrangers, quoi. Voilà, donc il y a... Et fermons la manne, totalement la manne de l'immigration et enlevons les avantages que l'on a donnés jusqu'à maintenant aux immigrés, aux, etc. Donc il y a l'idée que le protectionnisme est, s'attaquer aux riches ou s'attaquer aux immigrés, c'est des mannes qui peuvent nous aider à résoudre des problèmes.
Mais en fait, il y a une contradiction au sein même de ces partis entre les, disons, la tendance protectionniste d'un côté et la tendance libérale au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire l'ouverture et les lois du marché.
Alors justement, ça change à nouveau. Marthe Lazare connaît beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai que c'était intéressant. Par exemple, dans le cas de l'Italie, Giorgia Meloni, évidemment. Elle sait très bien, une fois au pouvoir, elle était pragmatique, elle sait qu'elle a besoin de l'Europe, donc il faut se mettre en bon terme avec l'Union européenne, avec la Commission européenne, et elle sait qu'elle a besoin, voilà, également d'avoir les conseils de Mario Draghi ou d'autres, parce qu'elle doit gérer l'économie. Alors, elle a été assez maligne et pragmatique. Mais dans l'ADN de ces partis, c'est pas des partis libéraux. Chez nous, par exemple, en France, et je ne veux pas parler de la France en particulier, on peut pas dire que voilà, il n'y a pas vraiment, voilà, il n'y a pas un discours de. Alors, il peut y avoir tel ou tel qui endosse un discours libéral, mais il n'y a pas de. Et surtout, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas de doctrine. On vient avec des solutions magiques, voilà, les riches. Les étrangers, pas d'accès à la santé, à la sécurité sociale pour les nouveaux immigrés, etc. Et on arrive à une espèce de pseudo-solution, mais il n'y a pas vraiment une doctrine économique cohérente qui sous-tende les programmes ou les propositions que peuvent faire ces partis. On l'a vu chez nous récemment, on le voit également ailleurs. Mais ça n'empêche pas que tel ou tel puisse être pragmatique une fois arrivé au pouvoir.
Marc Lazare, c'est là où Meloni a réussi, très maligne, comme vient de le dire Philippe, à devenir une sorte de modèle en Europe, d'un populisme de droite, pragmatique, qui barre l'entrée de l'Italie aux immigrés, alors qu'en fait, elle en fait venir.
Alors, je crois qu'il faut effectivement analyser avec là aussi beaucoup de nuances, beaucoup de doigté, si j'ose dire, ce que fait Giorgia Meloni, surtout dans un contexte actuel qui me frappe beaucoup, qui est cette Meloni-mania qui parcourt l'Europe et qui arrive même jusqu'aux États-Unis, où elle est très populaire, notamment du côté de l'administration de Trump, mais aussi dans toutes les télévisions qui soutiennent Donald Trump. Alors, premier élément de réflexion sur la dimension économique, mais je parle sous le contrôle de Philippe Aguillon. Ce qui est très important, je crois, à souligner, c'est que non seulement elle s'inscrit dans la continuité de Mario Draghi, mais dans toute la continuité depuis le gouvernement Mario Monti, c'est-à-dire 2011-2013, c'est-à-dire la cure d'austérité redoutable que Mario Monti et son gouvernement a fait subir aux Italiens. Donc ça, c'est vraiment un élément tout à fait important. Et par exemple, toute la réduction de la dette et du déficit public qu'elle est en train d'opérer s'inscrit dans une continuité. Ça, c'est un élément important. Et c'est vrai que c'est un mélange de politique entre guillemets libérale avec réduction justement de la fiscalité pour les entreprises. C'est un élément sur lequel elle intervient beaucoup parce qu'une partie de sa clientèle électorale est liée aux petites entreprises. Et puis en même temps, des formes de protectionnisme. Philippe Aguillon a tout à fait raison. Le slogan favori de Giorgia Meloni, c'est « Made in Italy », hein, donc promouvoir le produit italien. Et par exemple, je prends un exemple très clair, la SNCF essaye de rentrer sur le marché italien actuellement. les Italiens font tout pour ralentir cette présence de la SNCF sur les réseaux ferrés italiens. Il y a une concurrence italo-italienne, justement une compagnie qui s'appelle Italo contre Trenitalia, mais la SNCF a beaucoup de mal à rentrer sur le marché italien, mais ça va se faire parce que l'Europe, évidemment, contraint l'Italie à le faire. Alors, sur l'immigration, c'est tout à fait intéressant parce que Giorgia Meloni avait, vous vous en souvenez, pendant la campagne de 2022, annoncé même un blocus naval. Bon, elle était en pleine campagne, justement, c'est ce style populiste de Giorgia Meloni. Et depuis qu'elle est arrivée, et là, il faut vraiment insister sur les chiffres, entre 2023 et 2025, elle a fait passer un décret-loi qui a permis l'entrée de 420 000 à peu près immigrés. Mais attention, 186 000, je donne les chiffres exacts, hein, 186 850, c'est-à-dire 44%, sont des travailleurs saisonniers qui travaillent dans l'industrie du tourisme et dans l'agriculture. Et pour 2025-2027, pour la période qui s'annonce, elle a décidé d'accepter 497 550 immigrés, dont 54% sont des saisonniers, donc qui repartent après. Donc ça, c'est un élément tout à fait important. Cette politique d'immigration de Meloni est caractérisée par deux choses. Donc, une politique très dure contre l'immigration clandestine, sur laquelle elle communique beaucoup, et une politique beaucoup plus discrète en termes de communication, d'arrivée d'une immigration légale avec des pays qui sont choisis en fonction d'accords qui ont été passés entre l'Italie et ces mêmes pays. Et avec donc une partie de travailleurs saisonniers. J'ajoute un élément très important, parce que c'est un élément économique fondamental, c'est qu'il n'y a pas de salaire minimum en Italie. Et donc, la Confindustria, c'est-à-dire l'organisation patronale qui réclamait à corps et à cri cette main-d'œuvre, parce qu'il y a un déclin démographique important d'Italie, se satisfait d'autant plus de la présence de ces immigrés qui sont encore payés de manière plus inférieur au salaire parmi les plus bas de l'Union européenne. Mais je parle vraiment, ce dernier point, je le dis sous le contrôle de Philippe Aguillon.
Philippe Aguillon, l'immigration est véritablement le ferment commun à cette montée des vagues populistes en Europe, Royaume-Uni inclus. C'était tout à fait sidérant en septembre dernier de voir à Londres une manifestation monstre, incluant d'ailleurs beaucoup d'immigrés, contre toute nouvelle forme d'immigration. Le meneur de cette manif était ce Tommy Robinson, repris de justice, soutenu par Elon Musk. Donc, en quoi, selon vous, cette contradiction entre une démographie déclinante dans tous nos pays, donc un besoin de main-d'œuvre, et cette pulsion identitaire anti-immigration, comment résoudre cette contradiction dans nos démocraties ?
Oui, là je pense qu'effectivement il y a eu de la part des partis traditionnels, alors dans notre pays, mais peut-être dans d'autres pays, une certaine négligence par rapport à la question de l'immigration. On sait qu'on aura besoin, vous avez tout à fait raison, vous avez mis le doigt sur le phénomène de déclin démographique, et pour endiguer ce déclin démographique, on a besoin d'immigration. Mais il faut une immigration choisie et intégrée. Et par exemple, nous-mêmes ou d'autres pays n'avons pas suffisamment mis en place des outils pour gérer l'immigration. Moi, j'admire énormément le modèle canadien. C'est un modèle d'un système à points. On dit, voilà, on a tant de besoins et on donne des points à des candidats potentiels selon les besoins que nous avons, selon leur niveau de qualification. On a besoin d'immigration de travail, notamment qualifiée. Et l'immigration de travail, en général, ne pose pas problème. Donc, voilà, et les Canadiens mettent justement l'accent sur le fait, voilà, on a des besoins dans tel ou tel secteur ou des gens plus ou moins qualifiés. Voilà, et donc ça c'est important, il faut qu'on montre qu'on a des outils pour maîtriser et gérer l'immigration, et pour le moment, pour piloter l'immigration, c'est-à-dire des quotas, des points, des... voilà. Alors également, il y a le modèle danois. Alors le modèle danois peut-être a été trop loin parce qu'ils ont pris quasiment par personne, mais il y a, pour la partie rigueur et sévérité vis-à-vis des immigrés de type OQTF, violents, là, je pense que le modèle danois est un modèle à prendre en compte. Et c'est des sociodémocrates qui ont mis ça en œuvre. Donc, je pense qu'un mélange de Canadiens, peut-être ne pas aller exactement jusqu'au modèle danois intégral, mais prendre certains éléments chez les Danois, c'est intéressant de voir que des partis, y compris progressistes, ont repris ces éléments Et ça a permis d'endiguer en partie les montées du populisme. Voilà. Alors, moi, je crois beaucoup à la nécessité. On a besoin d'immigration, mais l'immigration fonctionne très bien quand elle est intégrée. Les États-Unis sont également un exemple. L'immigration intégrée aux États-Unis, la plupart des prix Nobel américains sont des immigrés, la plupart des scientifiques sont des immigrés, mais ils ont eu des politiques d'intégration et d'immigration par le travail.
Mais Philippe, précisément, vous revenez de Suède où vous avez été couronné de votre propre prix Nobel. En Suède, où en fait, dans les pays scandinaves, ce sont des gouvernements de coalition, plutôt de centre-droit d'ailleurs, sauf en Norvège, où là, le parti travailliste a été réélu et reste au pouvoir. Est-ce que cela veut dire que, sur le plan économique, il y a une souplesse dans le maniement, je pense au rôle du fonds de pension en Suède, par exemple, ou au système de flexi-sécurité au Danemark? Est-ce qu'il y a là, en fait, une inventivité qui manque quand on va un peu plus vers le sud?
Alors là, c'est en face à une autre chose, parce que sur l'immigration même, les Suédois, au moment... Quand il y a eu la guerre en Syrie, enfin la répression en Syrie, les Suédois ont accueilli tout d'un coup beaucoup de personnes, ce qui est peut-être une chose à faire, vous voyez, je veux dire, les Danois n'ont accueilli personne et les Danois ont accueilli beaucoup de monde, mais ils n'ont pas su les intégrer, donc je ne prendrai pas la Suède comme modèle d'intégration, vous voyez, parce qu'ils n'ont pas su vraiment bien intégrer leurs immigrés, mais d'un autre côté, ils se sont montrés généreux à un moment où il fallait peut-être l'être, je ne sais pas. Donc là, donc sur l'immigration, donc la Suède n'est pas forcément le modèle absolu, mais maintenant on parlait d'autre chose qui est le système social. Alors effectivement, ce qui est admirable dans les pays scandinaves, c'est qu'ils arrivent à combiner innovation et modèle social. Et je crois qu'en fait, le grand défi pour l'Europe doit devenir plus innovante tout en préservant et en améliorant son modèle social. Voilà. Les Américains sont innovants, mais ils n'ont pas un bon modèle social. Vous ne voulez pas tomber malade aux États-Unis quand vous n'avez pas beaucoup de ressources. Voilà, ils n'ont pas un bon système de protection et vous ne pouvez pas vous retrouver au chômage sans avoir des arrières assurées. L'Europe a cette possibilité, à mon avis, de devenir plus innovante et plus inclusive. Et c'est vrai que les Scandinaves montrent un peu le chemin. C'est des pays où l'innovation et la science jouent un rôle très important. Et ils ont un système, vous parliez de la flexi-sécurité. C'est vrai que la flexi-sécurité danoise, eh bien, vous perdez votre travail en Danemark, ben pendant 2 ans, vous avez 90% de votre salaire assuré, l'État vous forme et vous aide à trouver un nouvel emploi. Il faudra sans doute aller vers des systèmes de ce genre, notamment avec la révolution de l'intelligence artificielle, qui va détruire des emplois, mais qui va également en créer de nouveaux. Et je crois beaucoup au fait qu'on peut devenir à la fois plus innovant et plus protecteur en adoptant des systèmes de ce type. Je crois qu'un des gros problèmes, et Trump, c'est un peu le symptôme aux États-Unis, l'arrivée de Trump, c'est qu'ils ont fait la révolution des technologies de l'information et la mondialisation sans modèle social, sans protéger. Beaucoup de gens se sont sentis exclus et non protégés. Et c'est ces gens-là qui sont allés vers le populisme. Je crois que le défi pour l'Europe, c'est de devenir plus innovante, mais en même temps, en ne laissant personne sur le bord de la route, parce que les gens qu'on laisse sur le bord de la route, ils vont vers les populistes.
Marc Lazare, allons maintenant rejoindre, si j'ose dire, Viktor Orban en Hongrie. La Hongrie va vivre une expérience très intéressante puisqu'il y a des élections législatives en avril prochain, donc cette année, et d'après les sondages en tout cas, Orban est menacé par le maire de Budapest qui s'appelle Magyar, donc c'est facile à retenir, mais Orban prétend véritablement avoir le modèle qui permettrait de transformer l'Europe de l'intérieur, quel que soit le niveau de corruption au profit de sa famille, quel que soit évidemment le contrôle des médias. Il y a le ralentissement économique et Orban pourrait perdre le pouvoir au moment où Donald Trump le considère précisément comme le héros que l'Europe entière devrait imiter.
Oui, c'est vrai, il est dans une situation paradoxale. Alors attention, hein, les élections sont encore loin, il a des ressources très importantes, notamment le contrôle des médias. Et évidemment, ça compte énormément. Puis on sait qu'il y a une opposition en termes d'électorat, entre l'électorat des petites villes, des moyennes villes, des zones rurales, et puis l'électorat justement des grandes villes, qui est anti-Orban. Mais Orban, c'est effectivement un cas très intéressant, d'abord par la continuité de l'exercice du pouvoir, par cette marche vers ce qu'on appelle de plus en plus la démocratie illibérale, vous l'avez rappelé, c'est-à-dire on vote, même si les conditions de la compétition électorale ne sont pas toujours parfaitement réglées, mais effectivement, l'opposition contrôle la ville de Budapest, on réduit la liberté des médias, on contrôle le pouvoir judiciaire, on s'attaque aux libertés académiques, et il y a un sujet en particulier toujours très intéressant dans le cadre de ces expériences populistes au pouvoir, c'est le contrôle des manuels d'histoire immédiats, parce qu'il faut raconter un certain type d'histoire, donc il y a des pressions très forte. Mais Orban, c'est pas simplement ça. C'est Heritage Foundation, qui est ce think tank qui avait beaucoup aidé et contribué à la campagne victorieuse du deuxième mandat de Donald Trump. Le modèle, c'était Orban. Donc, effectivement, Orban est très, très bien vu par les États-Unis et par Trump, et cherche, vous l'avez dit, à essayer de transformer l'Union européenne de l'intérieur pour essayer d'obtenir plus de souveraineté nationale, plus d'espace, de recouvrer plus de souveraineté nationale. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça, Philippe Aguillon va tout de suite nous éclairer, en termes économiques, sachant que ce pays dépend, bien sûr, des ressources de l'Union européenne. Et c'est d'ailleurs la même chose du côté de Giorgia Meloni. Mais c'est très intéressant le cas d'Orban, parce qu'il est quand même, et c'est paradoxal, relativement isolé. Il est soutenu par les Américains, mais relativement isolé. Encore une fois, il n'appartient pas au même groupe, par exemple, des conservateurs et réformistes européens, donc le groupe de Giorgia Meloni. Et la confrontation et la convergence et la confrontation entre Budapest et Rome est très intéressante à cet égard. Il y a une convergence idéologique, c'est le national-conservatisme, c'est-à-dire la trilogie que l'un et l'autre, Viktor Orban et Giorgia Meloni, mobilisent: Dieu, famille, patrie. Il faut défendre l'Europe contre l'invasion immigrée, et notamment l'islam, ça c'est très important, encore plus du côté d'Orban que de Giorgia Meloni, parce qu'il ne faut jamais oublier que la deuxième religion en Italie, c'est pas l'islam, mais c'est la religion orthodoxe. Mais bon, il y a cet élément, la défense de la religion, la défense de la chrétienté comme valeur fondamentale de l'Europe, la défense de la famille traditionnelle, et puis évidemment la dimension nationale, donc Dieu, famille, patrie. Et en même temps, ils ont des divergences, et j'en cite juste deux. Une, elle est très importante sur la guerre en Ukraine. Orban est pro-Poutine, ralentit toutes les initiatives, ou cherche à ralentir toutes les initiatives européennes à propos du soutien à l'Ukraine, alors que Giorgia Meloni, alors là, est dans la droite ligne de ce qu'avait commencé Mario Draghi, et il faut lui reconnaître même un réel courage contre le parti de la Ligue qui est dans sa coalition, contre une grande partie de l'opposition, le mouvement 5 étoiles, une partie du Parti démocrate qui est contre l'envoi d'armes à l'Ukraine, en tout cas qui veut la paix au plus vite, et elle a soutenu l'Ukraine. Donc ça, c'est vraiment un élément tout à fait important de leur divergence. Et la deuxième divergence, c'est que Giorgia Meloni, elle a un projet très clair, c'est d'attirer le Parti populaire européen vers le Parti des conservateurs européens et réformistes européens au Parlement de Strasbourg, faire une alliance, pour aller vite, droite radicale et droite traditionnelle, pour déplacer le centre de gravité de l'Union européenne vers la droite, tandis que Viktor Orban, il a été expulsé du PPE, et il est dans une situation de refus d'une alliance avec le Parti populaire européen. Donc ce sont deux stratégies différentes. Et si j'insiste là-dessus, puisque j'avais dit au début qu'il y a trois groupes des nationaux populistes européens, c'est que, encore une fois, il y a une dynamique qui les porte en avant, mais attention, ils sont traversés par des grandes rivalités, et en particulier l'une d'entre elles qui tient au fait qu'ils se revendiquent du nationalisme, et que par définition, ils auront des intérêts antagonistes.
Philippe Aguillon, il y a ces rivalités donc au sein même des courants populistes européens, mais il faut bien reconnaître que l'Union européenne en tant que telle a reçu véritablement un coup de poing dans l'estomac avec la publication du document de la stratégie de sécurité nationale américaine au mois dernier, où l'Europe est accusée de déclin civilisationnel à cause de l'immigration islamique ou islamiste nommée comme telle. Et en fait, Philippe, on se rend compte que, vu de Washington, enfin vu de l'administration en place, l'Union européenne en tant que telle est véritablement une unité, un mécanisme qu'ils ne comprennent pas d'ailleurs, mais qu'il s'agit de détruire.
Absolument, je pense que les Américains veulent diviser les Européens. L'Europe doit se relever technologiquement et les Américains vont essayer de diviser les pays européens, d'utiliser leur force pour mettre les pays européens les uns contre les autres. Donc ça pose un vrai défi à l'Europe. Au moment même où il y a eu la publication du rapport Draghi il y a un an, expliquant pourquoi il y a eu ce déclin européen et qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir. Et à ce moment-là, à ce moment même, les États-Unis essayent évidemment diviser les Européens. Donc c'est le moment pour l'Europe de se ressaisir. Alors effectivement, la guerre en Ukraine est un facteur d'union entre Européens parce qu'on voit bien qu'on a une menace commune et donc on doit y faire face ensemble. Le fait aussi que les Américains n'expriment plus la solidarité et le soutien qu'ils ont exprimé depuis la Deuxième Guerre mondiale nous oblige également à unir nos forces. Donc c'est vrai que il y a cette attitude très agressive des États-Unis, mais moi je suis un optimiste et je vois des éléments favorables. Je vois une Allemagne qui est prête à investir beaucoup plus qu'avant. Je vois une Angleterre avec Starmer qui est prête à coopérer avec l'Union européenne. Il y a eu ce discours très important commun entre Macron et Starmer parlant d'Europe à nouveau. Et donc, si vous voulez, je crois que face à ces menaces qui viennent des États-Unis, on a la concurrence chinoise, on a beaucoup de gens qui aimeraient utiliser l'Europe comme marché, mais ne souhaitent pas une Europe unie politiquement et économiquement. Il y a des éléments, il y a des leviers qui nous permettent, à mon avis, de redresser la barre. Voilà. Donc, alors il y a Draghi, il y a tout le symptôme Draghi. Il nous faut un marché unique européen qu'on n'a pas. Il nous faut des investisseurs institutionnels. Vous mentionniez les fonds de pension suédois. Il nous faut un écosystème d'innovation que nous n'avons pas encore. Il nous faut des DARPA, l'équivalent de ces outils de politique industrielle qu'ont les États-Unis, que nous n'avons pas en Europe dans des domaines comme la défense, l'IA, la transition énergétique. Et puis, il nous faut mettre l'accent plus que jamais sur la recherche, donner des moyens. Vous savez, l'Europe, elle a quand même une force, Christine, qui est, on a ce qu'on appelle du soft power. La liberté, la démocratie, plus que jamais maintenant, c'est en Europe. Les gens ont peur de parler aux États-Unis. Et beaucoup d'Américains veulent venir vers l'Europe parce qu'ils disent, la liberté, c'est chez vous. Le modèle social dont je parlais tout à l'heure, les Américains n'ont pas de modèle social. Nous, en Europe, on a quand même un modèle social très avancé qu'on peut améliorer. Et on a déjà un système de santé, d'assurance chômage quand même bien meilleur que ce qui existe ailleurs. Et puis, on a un souci de l'environnement que d'autres n'ont pas. On a la force, l'Europe a un pouvoir d'attraction. Nous avons des talents. On peut vraiment se mobiliser et endiguer le déclin technologique que nous avons subi depuis plusieurs décennies et devenir une force d'attraction. Donc, effectivement, il y a ces vents contraires qui viennent des États-Unis, qui viennent de la Russie, peut-être qui viennent aussi, il y a la concurrence chinoise également, on en parlera peut-être tout à l'heure, et je crois que l'Europe doit affirmer ses valeurs et elle peut être une formidable force d'attraction si elle sait mettre en évidence ses talents et les valeurs qu'elle porte.
Mais Marc Lazare, comment affirmer ses valeurs au moment précisément où nos sociétés expriment cette espèce de malaise identitaire? Et ça se voit surtout, pour des raisons historiques évidentes, en Europe centrale et orientale, où il y a une obsession de la pureté ethnique. On a vu ça encore lors des élections en République tchèque. Par exemple, on le voit en Slovénie, ce sont des petits pays, mais qui représentent, par rapport à la menace russe, évidemment, un espace culturel et un espace démocratique important. Donc, s'agissant de la guerre en Ukraine, on voit à quel point le président américain, pour reprendre sa propre expression, se fait balader par Vladimir Poutine, et on voit les partis populistes qui sont divisées. L'AFD elle-même est partagée entre un courant pro-russe, un courant pro-américain. Que deviennent ces valeurs communes dans un continent aussi troublé que le nôtre ?
Je pense qu'effectivement votre réflexion est capitale, Christine, parce que effectivement l'Europe, et Philippe Aguillon vient de le dire, elle est confrontée au moins à trois grands défis. Il y a une guerre avec la Russie. Alors on n'est pas en guerre militaire au sens classique du mot, mais il y a une guerre effectivement avec la Russie, d'abord sur le territoire européen, vous l'avez rappelé en introduction, mais il y a une guerre, une cyberattaque permanente avec la Russie qui veut déstabiliser l'Europe. On est confronté à une guerre économique avec la Chine. Je laisserai Philippe Aguillon s'exprimer sur ce sujet-là. Et ce qui vient des États-Unis, alors c'est d'une gravité extrême. Et moi, je vais le résumer de cette manière. On sait que la coalition derrière Donald Trump est hétérogène. Il y a même des gens qui sont quasiment aujourd'hui pour un régime d'autorité complet, quasiment une forme de fascisme. C'est le cas de Curtis Yannin, par exemple. C'est impressionnant. Mais du côté notamment du vice-président Vance, parce que Trump, c'est le deal, point la ligne. Il n'y a pas beaucoup de prétentions idéologiques. Du côté du vice-président américain, le discours du 14 février 2025 à Munich est absolument fondamental, parce qu'il nous montre qu'il y a maintenant deux conceptions de la démocratie qui s'affrontent. La démocratie, dit-il, en Europe, n'est plus une démocratie parce que vous restreignez les libertés, parce que vous les régulez. Et nous, Américains, nous sommes les défenseurs de la vraie démocratie parce que nous assurons le principe de la souveraineté populaire, de la souveraineté populaire sans limite et de la liberté absolue, sauf entre parenthèses contre les ennemis de la liberté aux États-Unis. Mais voilà, c'est deux conceptions qui s'affrontent. Et moi, je vais très loin. Je pense qu'on est en train de vivre un schisme démocratique. C'est au cœur même du monde occidental démocratique, il y a un schisme démocratique. Et je fais une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, bien sûr, mes collègues historiens me hurleront, mais comparable au schisme que nous avons connu en Europe entre catholiques et protestants au XVIe siècle. Donc c'est d'une ampleur considérable. Et là où je vous rejoins, c'est pas un détour que je fais, c'est pour encore mieux préciser ce que vous nous soumettiez comme réflexion, c'est qu'effectivement, l'Europe, c'est pas une opposition, si vous voulez, entre États-Unis et Europe, c'est que ces lignes de fracture sur la Russie et maintenant, sur ce schisme démocratique au cœur de l'Europe, eh ben, elle divise l'Europe. Et effectivement, il y a un certain nombre de partis qui adhèrent à cette vision de Trump, et plus exactement du vice-président Vance. Il y a une ligne de fracture au cœur de l'Europe. Et donc l'Europe, j'entends tout ce que dit Philippe Aguillon, et j'adhère à 100%. C'est-à-dire, oui, il y a toute une potentialité considérable en Europe, mais il va certainement y avoir une nécessité de clarification qui risque de laisser des traces, parce que nous ne sommes pas tous d'accord sur ce que signifie justement la civilisation européenne, les valeurs européennes. Et c'est un élément de faiblesse, peut-être, pour l'Europe, ou qui peut être éventuellement un élément de force. D'autant plus que ça arrive dans un moment où, justement, quand on regarde toutes les enquêtes que nous avons, on voit que les Européens réclament plus de défense européenne, plus de protection européenne. Alors attention, en même temps, dans le même temps, parce que nous sommes un pays habitué à la paix, il rejette l'idée éventuellement d'envoyer des hommes, je ne dis même pas se battre, mais assurer la paix si jamais il y a une paix en Ukraine. Donc on sent bien que l'Europe là, a une forme d'hésitation, plus de défense, mais à condition qu'on n'ait pas de perte de vies humaines. Donc il y a une tension. Mais on voit en même temps, et c'est très intéressant, un rejet mais considérable de Trump et de Poutine. Alors après, quand on rentre dans le détail des opinions, on voit que, par exemple, les électeurs très à droite sont beaucoup plus nuancés sur Trump. Le cas italien est très intéressant, par exemple. L'électorat de Meloni est partagé sur Trump. Il n'est pas du tout adhérent à Trump. Mais l'électorat de la Ligue, de Monsieur Matteo Salvini, est à fond avec Trump. Mais la tendance globale en Europe, c'est l'hostilité à Poutine et Trump. Et donc, la grande responsabilité de nos dirigeants, c'est effectivement est-ce qu'ils sont capables de répondre. Moi, j'entends ce qu'a dit Philippe Aguillon en parlant de l'Allemagne, notamment le rôle du chancelier Merz. Est-ce qu'il sera capable justement d'aller jusqu'au bout de sa logique ? On sait que le président Macron est affaibli politiquement, mais en même temps, c'est sans doute celui qui a une vision j'allais dire, le plus net d'une certaine Europe. Mais on sait qu'il est affaibli. Donc voilà, la grande question, c'est est-ce qu'on va avoir des responsables politiques à la hauteur de ces enjeux qui sont fondamentaux, ou est-ce qu'ils seront comme les fameux somnambules dont parle le fameux historien Christopher Clark pour la guerre de 14, c'est-à-dire l'incapacité d'être lucide. Moi, c'est ma grande interrogation en ce début d'année, voyez-vous.
Mais Philippe Aguillon, il n'y a pas que les dirigeants, il y a les opinions publiques. Et on a l'impression que les Européens se sentent à bout de souffle tant ils sont pris, en fait, dans cette confrontation idéologique avec les États-Unis de Trump, la confrontation militaire sous toutes ses formes avec Poutine et la confrontation économique avec la Chine, au moment où il faut réussir un effort de défense, les industries de défense, qui pourraient d'ailleurs être un aiguillon de croissance.
Ben justement, je crois que cet aiguillon de défense, justement, on voit déjà l'idée, voilà, faisons une DARPA défense. Vous voyez, la DARPA, c'est cette façon de faire la politique industrielle, très moderne, très favorable à la concurrence, mais on fait la politique industrielle. Et je crois que maintenant, un certain nombre de pays européens ont la volonté de mettre en place des politiques industrielles. L'Europe, vous savez, ça a été beaucoup basé sur des réglementations. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire que l'Europe est un géant réglementaire et un nain budgétaire. Il s'agissait surtout de limiter les marges des pays membres pour pas qu'ils fassent de bêtises, qu'ils fassent des déficits excessifs. Et donc, on a surrégulé. On a fait une politique de concurrence européenne qui marche bien, mais qui était une politique très anti-politique industrielle. Vous voyez, au nom de la politique de concurrence, pas de politique industrielle. Maastricht, ça incluait aussi des investissements de croissance. On s'est trop lié les mains. Il va falloir maintenant assouplir notre doctrine économique pour relever les défis de la concurrence avec les États-Unis et de la concurrence avec la Chine. Il va falloir faire dire, dans Maastricht, dans les critères de déficit, mais Maastricht, c'est pas de déficit dépassant 3% du PIB, on peut pas mettre les dépenses de croissance, de défense, etc., sur le même plan que des dépenses de fonctionnement, retraite, etc. Et politique de concurrence, oui, mais il faut de la politique industrielle. Il nous faut des grandes politiques de recherche. Donc je pense que maintenant, il va falloir faire évoluer notre doctrine économique européenne pour permettre à l'Europe de se dire la concurrence, c'est pas seulement à l'intérieur de l'Europe, mais c'est la concurrence de l'Europe avec la Chine et avec les États-Unis. Ces deux blocs font de la politique industrielle et nous n'en avons pas fait. Voilà, nous devons faire de la politique industrielle comme eux en ont fait. Je crois que voilà, et il faut faire tout ça d'une manière où inclusive, c'est-à-dire que vous voyez, je crois qu'il y a eu un énorme espoir en France, par exemple en 2017 avec la Startup Nation que Macron proposait, mais beaucoup de gens se sont sentis exclus, ignorés, méprisés. Le dialogue social est quelque chose de très important également. Les Scandinaves, ce qu'ils ont de remarquable, c'est que il y a un modèle social, il y a une volonté d'innover, mais il y a une primauté donnée au dialogue social. Je crois que le dialogue social, c'est très important. Les gens n'aiment pas se sentir méprisés. Les gilets jaunes, c'est des gens qui ont senti qu'on les ignorait. Les retraites, c'est des gens qui ont dit « nous ne voulons pas des 64 ans, nous voulons autre chose et vous ne tenez pas compte de ce que nous voulons ». Et ça crée des frustrations qui nourrissent le populisme. Il faut montrer qu'on peut réconcilier innovation, modèle social et dialogue social, et montrer qu'on inclut les gens et qu'on dialogue avec eux. Je crois que c'est très important. Les gens qui se sentent exclus et méprisés vont directement vers les partis populistes, moi je crois. Et l'Europe en elle-même doit devenir vraiment, avec la Chine, il faut à la fois coopérer et faire la concurrence. Je pense qu'on peut faire affaire avec les Chinois, mais il faut s'assurer que quand on rentre dans des contrats avec les Chinois, les transferts de technologies ont lieu dans les deux sens, pas juste de nous vers les Chinois, mais également des Chinois vers nous. En fait, les Chinois sont extrêmement pragmatiques, ils ont une âme de capitaliste, et on peut travailler avec eux. L'Europe, c'est un marché immense pour la Chine, et donc il faut qu'on troque cet accès au marché européen contre des conditions simples mais très strictes de transfert de technologies des Chinois vers nous dans les domaines où les Chinois sont en avance sur nous. Et je crois qu'on peut, vous voyez, je suis contre ceux qui pensent qu'on ne peut rien faire avec les Chinois. On peut s'engager dans des coopérations, mais il faut simplement s'assurer que, eh bien, les Chinois jouent le jeu et que les transferts de technologies ont lieu dans les deux sens. Je crois que l'Europe a des leviers qu'elle peut activer avec le soft power dont je parlais tout à l'heure. Et je pense que ça ne sera pas forcément au niveau de 27 pays, Christine. Je crois beaucoup dans la coalition des volontaires. Je crois beaucoup que c'est les pays qui veulent faire des choses ensemble, qui feront des choses ensemble. Par exemple, sur la défense, je vois beaucoup moins triptyque France, Allemagne, Angleterre. Maintenant, les Suédois veulent faire des choses en défense avec les Français. Eh bien, faisons des choses avec les Suédois. Je crois beaucoup à la mise en œuvre du rapport Draghi, mais pas d'en haut à 27 directement, mais avec des pays qui veulent faire partie de cette coalition des volontaires, et puis d'autres pays joindront dans des initiatives, notamment DARPA de défense, marché unique sur le high-tech, etc. Vous voyez, mais je crois vraiment qu'on peut activer des leviers nouveaux.
Mais c'est évidemment là où on en vient au dilemme propre aux démocraties. Comment toutes ces lignes de force que Philippe Aguillon vient de souligner, tous ces impératifs pour l'Europe en tant que telle, pour nos pays, pour nos sociétés, pour notre jeunesse, pour aller de l'avant, Marc, comment concilier ces impératifs avec des élections ? Parce que bien évidemment, il y a des élections en 2026, on a parlé de la Hongrie, il y a aussi des élections régionales, il y en a 4, je crois, en Allemagne, où on va voir sûrement la montée de l'AFD. Il y a des élections en Suède, vous le rappeliez. Et puis en 2027, il y a France, Italie, Pologne, Espagne. Des élections majeures. Bon, comment concilier ces impératifs? Comment demander un tel effort, une telle énergie, un tel consensus, alors que les campagnes électorales vont évidemment, hélas, pousser vers la simplification et les solutions les populistes les plus expéditives.
Ben, c'est effectivement un vrai enjeu là aussi. Je rajouterais juste deux petits points là sur les élections qui s'annoncent. Bien sûr, en Hongrie, vous l'avez dit, Suède et Allemagne, il y a plusieurs landers, mais aussi Danemark. On va voter au Danemark et on va voter pour les midterms aux États-Unis. Il ne faut jamais oublier ça. Ça va être un élément très important parce qu'il y aura peut-être un changement, peut-être une victoire des démocrates et qui, du coup, ralentirait peut-être toutes les initiatives trumpiennes. C'est donc à suivre avec beaucoup, beaucoup d'attention. Oui, pour toutes ces élections, on peut espérer, puisqu'on est au début de l'année, on peut peut-être formuler un vœu. J'espère qu'il n'est pas que naïf, qu'il n'est pas uniquement ingénu, mais que justement à l'occasion de ces élections, dans tous les pays qu'on a indiqués, Hongrie, Danemark, Suède, Allemagne pour les Länder, France, Italie, Pologne, Espagne, et la question européenne devrait être portée par un certain nombre de candidats. De toute façon, elle va être portée par les partis nationaux populistes, de droite comme de gauche. On n'a pas parlé jusqu'ici des populismes de gauche, en fait ils sont assez peu nombreux, le seul pays où ils sont nombreux c'est le nôtre, hein, c'est en France avec la France insoumise. Mais évidemment, ces partis, ils tapent sur l'Europe, ils critiquent l'Europe. Alors, avec des différences selon les uns et les autres, parfois très durement, c'est le cas de l'AFD, qui à un moment donné envisageait même d'organiser un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, mais l'AFD est très pragmatique, comme tous ces partis, où ils veulent proposer une autre Europe, une Europe où il y aurait plus d'espace pour la souveraineté nationale, je le répète, là encore, avec des nuances, mais de toute façon, ils porteront, eux, le débat. Et donc, je crois que pour les partis qui se veulent pro-européens, il va falloir prendre le taureau par les cornes, affronter ces formations et engager la discussion concrètement. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement en Europe ? C'est une demande à ces partis-là, mais il ne faut pas être uniquement sans doute sur la défensive. Il faut pouvoir argumenter. La question de la défense qu'on vient d'évoquer est tout à fait importante, parce que moi je rejoins là aussi ce que dit Philippe Aguillon, mais en même temps j'intègre un point qui est qu'une partie de l'opinion européenne est plus que réservée sur cette politique d'industrie de la défense, au nom, et on peut le comprendre, d'une nécessité d'avoir plus de politique sociale, de politique en faveur de la santé. Quand on regarde les préoccupations des Européens, là je regardais encore ce matin un sondage, alors vous me direz pour l'Italie, mais je crois qu'on peut l'étendre d'ailleurs pour la France, c'est la même chose. La première préoccupation, c'est l'emploi. La deuxième préoccupation, c'est la santé. La troisième préoccupation, c'est la sécurité. Et je le signale, l'immigration arrive derrière et assez loin derrière. Donc, sur ces questions-là, effectivement, il risque d'avoir une réponse. D'ailleurs, un certain nombre de partis se sont emparés de ça, dont d'ailleurs une partie de ces formations populistes, consistant à dire, mais pourquoi faire une politique en faveur de la défense, alors qu'il y a d'autres priorités. Et de toute façon, la guerre en Ukraine, il faut l'arrêter au plus vite. C'est la combinaison du pacifisme et d'une politique sociale. Donc, il y aura effectivement un travail important. Mais je crois que la question clé, c'est la question de la gouvernance européenne. Et si on doit aller vers une Europe, c'est plus des décennies, on parle de ça, d'avoir une Europe plus efficace, donc d'avoir une Europe peut-être où, selon les engagements des pays, on est plus ou moins intégré, ça supposerait de régler cette question de l'unanimité ou de la majorité qualifiée. Alors, il y aurait peut-être une possibilité, je sais que ce que je vais dire risque de choquer, mais pourquoi pas avoir un référendum sur ces questions. Alors, je sais quel traumatisme de du référendum sur la Constitution européenne, mais il faudra peut-être prendre à partie l'opinion publique en disant, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous dites que vous êtes en faveur de l'Europe de la défense, vous dites que vous êtes pour une Europe de la protection, vous rejetez Trump, vous rejetez Poutine. Alors, pour qu'on avance, bah, il faut qu'on modifie notre gouvernance. Et on vous prend, voilà, on peut vous interpeller là-dessus et même éventuellement vous demander de choisir. Je sais que ça sera très risqué, mais ce que disait Philippe Aguillon est tout à fait juste, il faut renouer un dialogue social et il faut renouer de la confiance. Parce qu'on insiste trop on insiste à juste raison sur la défiance d'une partie des populations à l'égard des politiques, mais il y a aussi une défiance justement des élites politiques par rapport à leurs propres opinions. Le référendum sur la Constitution européenne en France et aux Pays-Bas a été un traumatisme. Il est temps de surmonter ce traumatisme et de prendre à partie, si j'ose dire, de mettre les Européens devant leurs responsabilités, c'est chacun et chacune d'entre nous.
Philippe Aguillon, on arrive presque à la conclusion très provisoire de cette conversation. Sans mauvais jeu de mots, vous avez été couronné d'un prix Nobel, nous en sommes tous très fiers, pour vos travaux sur la destruction créatrice, qui, pour prolonger Schumpeter, est évidemment ce qui permet l'innovation. Quand on voit le chaos du monde, quand on éprouve presque physiquement cette accélération du rythme, ce chaos que Trump incarne, je précise d'ailleurs qu'en ce moment même, les États-Unis viennent de mener des attaques contre le Venezuela. Ils se sont emparés, semble-t-il, du président Maduro et de son épouse. On ne sait pas où ils sont, mais ils ne sont plus au Venezuela. D'un autre côté, en Iran, le président Khamenei dit que les manifestants doivent rester à leur place. Bref, le monde est en chaos et l'Europe devrait apparaître comme un pôle de stabilité. Et néanmoins, il faut détruire pour créer. C'est votre théorie.
Oui, il faut se renouveler, quoi. Il faut savoir. L'Europe, par exemple, je le disais tout à l'heure, l'Europe, elle doit. C'est-à-dire, vous voyez, ceux qui vont vers les populistes envoient aussi des messages. Je crois qu'il faut. On avait une Europe avec trop de réglementations. Et trop de réglementation inutile, vous voyez, donc je suis pas pour la déréglementation à tout prix, mais je pense qu'il y a des bonnes et des mauvaises réglementations. On est ce géant réglementaire et ce nain budgétaire. L'Europe doit modifier sa doctrine économique, elle doit devenir plus dynamique, elle doit entreprendre davantage, elle doit avoir évidemment des réglementations, des protections, mais elle doit faire des politiques hardies pour rattraper son retard technologique. Le dialogue social, c'est quelque chose d'important. Il y a un message qui est envoyé. On ne peut pas faire, on ne peut plus être jupitérien, ça c'est fini. Il faut reconnaître la primauté du dialogue. Je crois que les gens qui vont vers les partis populistes aussi envoient certains messages. L'Europe doit se réformer. Nous devons réformer notre manière de faire de la politique. Je crois que ça, c'est c'est fondamental. Donc, on doit faire notre propre destruction créatrice, c'est-à-dire qu'on doit se renouveler, on doit changer nos pratiques pour nous adapter au nouveau monde, mais pour être aussi mieux ce que nous sommes vraiment, un oasis de démocratie et de liberté, un modèle social qui est en amélioration, l'environnement qui est très important pour nous. Vous voyez, pour être mieux ce que nous sommes, nous devons nous renouveler. Oui, je crois vraiment qu'il faut se renouveler pour pouvoir être encore mieux soi-même. Je crois profondément à ça.
Marx, se renouveler, encore une fois, c'est précisément dans cet esprit que le processus électoral trouve sa raison d'être. Mais à partir du moment où, en fait, ce sont des remugles, ce sont, hélas, souvent les passions tristes, ou ce sont les pulsions contraires qui animent, en tout cas, les propositions politiques. Comment faire en sorte que cette forme de dialogue entre nos opinions et ceux qui prétendent nous diriger, comment est-ce que ce dialogue pourrait être amélioré au moment où les réseaux sociaux compliquent encore les choses?
Certainement, mais je crois que c'est des confrontations auxquelles la démocratie a déjà été confrontée et dont elle a su relever le gant, relever le défi. Vous savez, à l'époque de la guerre froide, Raymond Aron, avec cette formule qui m'a toujours frappé, il disait « la poésie épique du totalitarisme séduit plus que la prose grise de la démocratie ». Et pourtant, la démocratie l'a emportée. Alors, je ne dis pas qu'il faut avoir une prose grise de la démocratie, mais oui, les populistes dont nous parlons, qui donc impactent l'Union européenne, hein, ça il faut bien le voir, et qui sont en train de gagner sur au moins deux points actuellement au niveau européen. On a parlé d'immigration, la politique de Meloni et la politique du gouvernement social-démocrate danois sont en train de conquérir tous les chefs, convaincre tous les chefs de gouvernement ou les chefs d'État actuellement en Europe. Et l'autre élément sur lequel ils sont en train de gagner, c'est le pacte vert, c'est-à-dire le démantèlement, le détricotage de ce que Mme Ursula von der Leyen, lors de sa première présidence, avait porté au fonds baptismaux et qui en ce moment recule sur ces sujets-là. Donc oui, il y a un enjeu considérable. Le populisme, ce n'est pas le problème, c'est l'expression de problème. Et ce n'est pas non plus uniquement une menace pour la démocratie, parce que oui, il y a une menace sur la démocratie avec les populismes, parce qu'ils ont une tentation autoritaire, parce qu'ils veulent ou ils peuvent aller vers des démocraties libérales comme illibérales comme on le voit en Hongrie, mais en même temps, c'est une opportunité. Oui, l'expression, le vote pour ces populistes, ce n'est pas uniquement un vote pour l'autorité, c'est une vote aussi pour, ça peut paraître paradoxal, pour être plus associé aux décisions. C'est l'expression d'un malaise social, c'est l'expression d'une interrogation culturelle. Et donc, à l'occasion de ces élections, c'est, encore une fois, on peut espérer qu'il y ait une confrontation de fond sur ces sujets, qui sont à la fois des sujets politiques, économiques, sociaux et culturels. Ma seule inquiétude, parfois, et même souvent, c'est de me dire, est-ce que justement les partis, les acteurs politiques qu'on qualifie de traditionnels, sont à la fois conscients de ces enjeux et capables justement de les relever? C'est mon interrogation.
Philippe Aguillon, je crois qu'il est légitime de vous laisser le dernier mot ce matin. Précisément, si vous deviez trouver un mot-clé pour nous encourager tous à commencer cette nouvelle année. En un mot, quel serait-il ?
Je crois qu'il faut être optimiste, un optimisme de combat. Voilà. C'est-à-dire de dire, voilà, nous avons des leviers, nous avons des talents, nous portons des valeurs, il faut justement, comme disait Marc, le populisme, la tentation du populisme, c'est en même temps des cris d'alarme de gens qui se sentent exclus. Et il faut les entendre et il faut transformer ça en opportunité. Donc mon message, c'est celui d'un optimisme de combat. Nous avons tout ce qu'il faut, les valeurs, les atouts, les scientifiques, pour pouvoir, si on sait changer nos politiques, si on sait adapter nos politiques, promouvoir ce que nous sommes, et redevenir le phare du monde que nous étions. Voilà, donc moi, mon message, c'est optimisme de combat, espoir.
conclusion pour cette première émission 2026. Merci à vous, Philippe Aguillon, professeur au Collège de France et à l'INSEAD, prix Nobel d'économie 2025. Vous avez publié en 2020 Le pouvoir de la destruction créatrice chez Odile Jacob. Marc, je rappelle votre ouvrage Pour l'amour du peuple, histoire du populisme en France chez Gallimard, ainsi qu'un ouvrage précédent chez le même éditeur, Peuplecratie avec Ivo Diamanti. À la réalisation ce matin, bien sûr, Luc-Jean Reynaud, Ludovic Auger était à la technique, Théa Corlaire et la documentation de Radio France m'ont aidé à préparer cette émission. Et voici, bien sûr, les carnets de santé de Marina Carrère-Dancausse. Très bon week-end et à samedi prochain.